Bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Je pense qu'on baisse un petit peu le volume. Avez-vous pu louer votre Dieu ce matin? J'ai senti quand Laura a pris le micro, une voix légèrement défaillante. Qu'est-ce qui s'est passé, Laura? Elle a tellement loué son Dieu. Il a tellement élevé la voix qu'au moment de prendre le micro et parler, la voix défaillait. Avez-vous pu louer votre Dieu comme Laura l'a fait ce matin? Le Seigneur qui nous demande de le louer, c'est pas louer votre Dieu. C'est pas ça louer. Hein. Quand on loue notre Dieu, il faut que les voisins l'entendent. Il faut que les anges en haut l'entendent. Il faut que ça se voit dans notre cœur. Pour que le Seigneur voit la joie dans notre cœur. Le Seigneur ne voit pas juste les apparences. Il voit l'intérieur, plus profond de nous. Il voit si c'est sincère. Il voit si ce n'est pas sincère. Quand on loue notre Dieu, on doit le louer comme David louait son Dieu. Il chantait, il dansait avec les esprits. Nous ne devons pas hésiter à regarder à ce qui sont à côté. Qu'est-ce qu'on va dire? Non, non. Lorsque nous venons dans ce bâtiment, cette maison, nous venons rencontrer notre Dieu. Ça n'a rien à voir avec ce qui est à côté de nous. C'est une entente personnelle avec notre Dieu. Alors lâchez-vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui disait ça, mais lâchez-vous, je viens. Bon, moi, je n'ai pas beaucoup, je ne peux lâcher grand-chose. Mais si vous avez des choses à lâcher, lâchez. Bon, c'est pas le sujet de la méditation. Donc, le temps que je vais mettre en place. Voilà. Alors cette note d'humour, ça vous a fait sourire, heureusement, parce que le plus dur reste à venir. Ce matin, malheureusement, je risque de me fâcher avec certains d'entre vous. C'est vraiment avec beaucoup d'appréhension que je prends ce micro pour prendre la parole ce matin. À gloire à Dieu. Pour vous, en tout cas. Bien, le but, c'est que l'honneur soit donné à notre Dieu. Alors, si je prends la parole ce matin, c'est que je risque de m'opposer à bien des croyances partagées par quelques-uns d'entre nous. Mon message va même sembler s'opposer à quelques enseignements, donnés par l'apôtre Paul. Vous allez voir, mais ne partez pas. Je vous rassure, tout va bien se passer. Combien de fois il nous a été amené à vendre du rêve lorsque nous avons présenté l'évangile. Donne ta vie à Christ, tu verras, tout ira bien dans ta vie. Les mots qui s'accompagnent souvent d'un large sourire. Il faut que ça se voit. Si Dieu a dit que tout va bien, il faut qu'il voit que tout va bien. Ensemble, même par contre, qui nous arrive de décrédibiliser le message que nous sommes en train de porter? Je vais chez un voisin, je lui dis, tout ira bien, donne ta vie au Seigneur. Pourtant, durant l'année, il m'a entendu crier, pleurer, il est juste à côté de moi. J'apporte l'évangile, mais je ne dis pas ce que je dis. Lorsque je parle de l'évangile à ma famille, je leur prête attention. Quand je leur dis, il n'y aura que des bonnes choses, que de la joie, mais ils le connaissent. Ils savent que je suis bien passé par mes moments difficiles. Ils savent que je pleure. Je me dis, Nicolas, ce que tu me dis, c'est pas vrai, mais moi, je te vois. Et pourtant, si on peut afficher, et pourtant, l'apôtre Paul lui-même nous invite. Il nous invite à toujours être joyeux. En Philippiens, chapitre 4, verset 4, il nous dit ceci. Réjouissez-vous en tout temps. Oui, je le répète, soyez dans la joie. En 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, soyez toujours dans la joie. Et dans le livre de Jacques, que la plupart d'entre nous avons commencé à lire, à étudier dans nos petits groupes. Nous avons lu Jacques, chapitre 1, verset 2. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, même dans l'épreuve, considérez-vous comme heureux. Nous en sommes arrivés quelquefois à devenir même insensibles aux souffrances des autres. Rendez-vous moralisateur. Mon frère, que t'arrive-t-il? C'est quoi ce visage? Sois dans la joie. On doit être toujours dans la joie. On oublie parfois de chercher à savoir ce qui a provoqué cette tristesse chez notre frère, chez notre soeur. Alors bon, ce matin, nous allons tendre le coup aux mauvaises croyances et mauvaises interprétations. Mais puisque la Bible ne se contredit pas, puisque les auteurs ne disent pas tout et le contraire, je vous invite à comprendre ensemble ce que Dieu attend vraiment de nous. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous poser aux écrits de Paul, surtout pas. Mais à travers le livre de Jacques, on va plutôt les confronter en y apportant les éclairages. Ce matin, je vous invite à lire avec moi le livre de Jacques. On reste ici dans le livre de Jacques. Et nous allons lire le chapitre 5, les versets 13 à 18. Jacques, chapitre 5, et nous allons faire la lecture du verset 13 au verset 18. Jacques 5, les versets 13 à 18. J'en fais la lecture. L'un de vous passe-t-il par la souffrance? Qu'il prie. Un autre est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'Église qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Élie est un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau, et le sol et le ciel, pardon, revenaient à la pluie, et la terre produisit ses récoltes. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, c'est ta parole qui est bien notre sentier. Alors, Père, je te prie de nous faire grâce à ta présence, par ton Saint-Esprit, donne-nous la compréhension de ta parole. Chasse les mauvaises interprétations, les mauvaises idées. Et que nous puissions nous appuyer sur ta parole pour vivre selon ta volonté, Père. Amen. Alors, à travers ce passage, voyons donc ce qu'est réellement le chrétien. Et on va tout de suite dans le vif du sujet. Le chrétien, il n'a pas une vie de rêve. Le chrétien doit-il vraiment toujours avoir le sourire aux lèvres? Être dans la joie. Dans le passage que nous venons de lire, personnellement, il me semble que non. En effet, pour commencer, Jacques évoque la possibilité que l'un d'entre nous, il dit bien, l'un de vous, passe-t-il par la souffrance. Il est possible que le chrétien passe par la souffrance. Alors ne vendons pas du rêve en disant que tout ira bien forcément du moment où on donne notre vie au Seigneur. Ce n'est pas vrai. C'est la meilleure manière de faire fuir un frère qui vient de se convertir. Parce que lorsqu'il découvre la réalité, s'il découvre qu'on a menti, pour lui, le meilleur moyen, c'est de fuir ce mensonge. Jacques, au verset 17, nous invite à regarder à Élie, ce grand prophète, que vous pouvez apprendre à connaître à partir du livre de 1 Roi, chapitre 17. C'est lui qui, avec Moïse, a parlé aux côtés de Jésus lors de sa transfiguration. Jacques rappelle que ce grand prophète était tout à fait semblable à nous. Et pourtant, il n'a pas eu la belle vie. Loin de là, on a cherché à le faire chier. Il a pris la fuite. Il a eu peur. En 2 Timothée, chapitre 3, verset 9, Paul dira à Timothée, « Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. » Est-ce que vous vous souvenez des paroles de Jésus rapportées en Jean, chapitre 15, verset 20 ? Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Cela ne ressemble pas trop à la promesse du vieux rêve. Comment c'est dit ? Alors certains me diront, mais oui, mais on a lu Jacques, chapitre 1, verset 2. Qui nous dit, frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Alors que se passe-t-il? On se contredit. Le chrétien n'est pas toujours dans la joie. Lorsque nous lisons le passage de ce matin, au chapitre 7, au verset 13, il dit ceci, l'un de vous passe-t-il par la souffrance qui prie, un autre est-il dans la joie qui chante des cantiques. Jacques semble faire une opposition, une différence entre le membre de l'Église qui souffre et le membre de l'Église qui est dans la joie. Lorsqu'on lit ce passage, il ne parle pas de la même personne. L'un de vous est-il dans la souffrance, l'un de vous est-il dans la joie. Il est donc possible que parmi nous, il y ait des personnes qui ne sont pas dans la joie. Et c'est normal. Le chrétien n'est pas toujours dans la joie. Ne m'en voulez pas, mais j'ai du mal à imaginer Élie, pendant sa fuite, en train de courir, se cacher, le faire toujours le sourire aux lèvres. Il court, il se cache, il regarde si personne ne l'a vu. J'ai du mal à croire qu'il était totalement dans la joie. Regardons à Jésus, fils de Dieu, pleinement Dieu, pleinement homme. Il était toujours dans la joie, dans le sens où le monde l'entend, heureux, le joyeux. Vous savez que Jésus a pleuré de chagrin à la mort de Lazare? S'il l'a pleuré, il a pleuré le soulet. Vous savez qu'il nous est dit en Hébreux, chapitre 5, verset 7, que face à la mort qui s'approchait, Jésus a fait monter à Dieu des prières et des supplications avec grands cris et des larmes. Jésus a crié avec des larmes, le sourire dans la joie, le sourire aux lèvres. En Matthieu 26, verset 38, il nous est dit qu'il était accablé de tristesse à en mourir. Jésus avait-il toujours le sourire aux lèvres? Non, je ne pense pas que le chrétien peut être toujours dans la joie, dans le sens où le monde l'entend. C'est-à-dire content, heureux. Alors, s'il vous plaît, faisons l'effort. Ne soyons pas trop prompts à culpabiliser un frère, une sœur qui passe par des mois difficiles. N'allons surtout pas dire, tu ne fais pas suffisamment confiance à Dieu lorsqu'un frère et une sœur passent par des moments difficiles. En effet, soyons francs, on est très souvent très prompts à trouver des motifs à une situation compliquée. Hein, ça, c'est le résultat des vues de péché. Hein. Voilà des mots qui, je pense, ne devraient jamais sortir de la bouche d'un chrétien. À moins que cela soit été révélé par le Saint-Esprit, faisons attention à cette langue difficile à dompter. Car si en effet, il est vrai, la souffrance peut être une conséquence du péché. Mais il n'y a pas que ça. La souffrance peut avoir bien d'autres motifs. Vous l'avez lu comme moi, en Jacques chapitre 1, verset 2. La souffrance est là pour mettre à l'épreuve notre foi, notre patience. À l'image de Paul, la souffrance aussi peut être une manière préventive pour nous protéger du péché. En effet, en 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7, Paul dira ceci. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve. Elle me vient de Satan, qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. L'épreuve est là parfois pour nous protéger. La souffrance de Paul l'a protégé de l'orgueil. Oui, les raisons de la souffrance sont multiples. En Jean chapitre 9, verset 1 à 3, nous découvrons un aveugle. Son état était ni dû à son péché. Il était né aveugle. Donc il n'a pas eu le temps de péché. Il est comme ça. Son état n'était pas dû au péché de ses parents, comme le supposaient les disciples. Jésus a dû leur apprendre que l'état de cet homme n'était pas dû au péché. Mais tout simplement, Dieu avait permis cette situation pour que les hommes voient ce dont Dieu était capable lorsque Jésus a guéri cet aveugle. Ne soyons pas trop prompts à juger un frère, une sœur, parce qu'il souffre. Il dit dire parce que tu es dans le péché. Le croyant n'a pas une très belle vie. Il peut être touché par la maladie. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous l'avez lu comme moi, en Jacques. Chapitre 5, verset 14. L'un de vous est-il malade? Si Jacques pose la question, c'est que cela est possible. Le chrétien peut être malade. Et attention, il ne faudrait surtout pas restreindre le mot malade à juste une mauvaise santé, un trouble physique. Dans le verset 14, le mot malade est la traduction du mot grec asthénie. Je ne suis pas garant de la prononciation. Qui signifie littéralement être faible. Cela peut donc s'attribuer au domaine spirituel. Lorsque nous sommes faibles, lorsque notre conscience est faible, lorsque nous sentons défaillir. Oui, cela peut arriver. Le chrétien peut connaître des temps de faiblesse, des hauts et des bas, des moments où il se sent faiblir, des moments de doute, des moments où il n'arrive plus à prier, où il n'a plus envie de venir à l'église. Ne vous en voulez pas. Si vous passez par là, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Mais alors vous me direz, pourquoi Paul nous invite à être toujours dans la joie? Pourquoi Jacques lui-même nous dit de considérer comme heureux lorsque nous passons par l'épreuve? C'est tout simplement parce qu'ils connaissent la solution. Solution qui est à la portée de nous tous. La solution. Et la prière. La joie dont Paul nous parle se trouve en Dieu. En effet, j'ai beau lire le chapitre 1 de Jacques, verset 2. Je ne vois pas dans ces mots l'invitation à être dans la joie au moment de l'épreuve. Dans cette version, nous pouvons lire qu'il nous pousse à nous considérer comme heureux. Dans notre version, vous verrez qu'on nous invite à regarder comme un sujet de joie ces épreuves. Mais ce n'est pas la même chose qu'être dans la joie. Je peux voir l'épreuve comme un sujet de joie, sans forcément avoir le sourire aux lèvres. Mais oui, cependant, Paul nous invite à être toujours dans la joie. Comment? Toujours dans le passage, Jacques nous en donne la réponse. Verset 13 du chapitre 5 de Jacques. L'un de vous passe-t-il par la souffrance, qu'il prie. L'un de vous est-il malade, qu'il appelle les responsables de l'Église qui prieront pour lui. La joie, même à travers la souffrance, se trouve dans la présence de notre Dieu. En effet, en présence de Dieu, nous apprenons à voir la souffrance comme ce qu'elle est vraiment. Parce que ce n'est pas forcément une punition, comme je l'ai rappelé juste avant. L'épreuve est là pour nous éprouver, tester notre foi, notre endurance, notre patience. La souffrance est une manière de nous préserver, de nous protéger du péché. Lorsque nous sommes en présence de notre Dieu, il nous révèle
les raisons, les causes de l'épreuve. Et nous pouvons vivre la souffrance autrement. Vous savez, si pendant des semaines et des semaines, je m'amuse parce que j'ai des jeunes que j'entraîne au volleyball, si je leur impose des courses interminables, des sauts, des pompes, des abdos, ils risqueraient d'abandonner. Mais une fois que je leur explique que tous ces exercices vont leur permettre de sauter plus haut, de sauter encore plus haut que le filet et de pouvoir matcher comme les professionnels à la télé, là, le visage change. Ils vont toujours souffrir en courant et en faisant des abdos. Mais l'ambiance sera haute. Ils sauront pourquoi ils souffrent. Le chrétien passe par des moments difficiles. Mais lorsqu'il tourne le regard vers Dieu, le Seigneur nous ouvre les yeux et nous voyons la souffrance totalement autrement. Alors oui, en introduction, je me suis permis de couper les versets. Et je vous invite à redécouvrir ces versets de leur totalité. Philippiens chapitre 4, verset 4, Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. En 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, soyez toujours dans la joie, priez sans cesse. Et Jacques ne fait que confirmer cette idée. L'un de vous passe par la souffrance, il prie. L'un de vous est-il malade, qui fasse appel aux responsables, qui prieront pour lui. La solution, la prière. La solution, la présence de notre Dieu. En demeurant dans la présence de notre Dieu, on apprend à voir à travers ses yeux et à s'émerveiller de tout ce qu'il a fait pour nous, de tout ce qu'il fait autour de nous. Et à ce moment-là, la joie nous soumet. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous raconter comment Dieu m'avait permis de réussir ce concours afin que je devienne enseignant. Le Seigneur m'a donné un talent, une aisance, c'est dans les chiffres. Mais je n'ai pas le talent des mots. Or, pour devenir enseignant, il faut passer par un oral où il y a un exposé à faire. Pour une notion donnée, vous avez un exposé d'une heure à préparer. Et je n'étais pas bon pour cela. Exposé avec une introduction, développement, conclusion. J'étais scientifique, pas littéraire. Alors, pour me donner toutes les chances, j'ai cherché à passer deux concours. Le premier, il y avait 100 sujets possibles à connaître. Ma mémoire n'est pas très bonne. J'ai cherché donc à apprendre ces 100 sujets avec grande difficulté et peine. Et lorsque j'ai passé le premier concours, ça n'a pas été parfait. Je suis tombé sur un sujet que je ne maîtrisais pas. J'ai fait ce que je pouvais avec l'aide de Dieu. Et le jury a dû, indulgent qu'ils étaient, me rassurer, mais que ce n'était pas si mal. Mais il y avait ça, qui n'allait pas. Au deuxième concours, là encore, il y avait une centaine de sujets. J'ai tiré un sujet au hasard. Et quand j'ai tiré ce sujet, je suis resté 10 minutes sans rien faire. Alors que les autres candidats écrivaient sur leur feuille, prenaient des notes, je suis resté 10 minutes sans rien faire. Vous savez pourquoi? Le Seigneur avait permis que je retombe sur le même sujet. Quand j'ai vu la fin, j'ai vu une pote, j'ai dit mais non. Les autres étaient en train d'écrire, j'ai dit mais non, c'est pas possible. Il y avait une chance sur 10 000 que ça arrive. Le Seigneur avait permis que je retombe sur le même sujet. J'ai donc pu me rappeler de tous les conseils que l'autre jury m'avait donnés. Et cette fois-ci, mon exposé s'était super bien passé. Et lorsqu'on voit ce que le Seigneur est capable de faire, oui, je suis resté 10 minutes. Pour me prendre le temps d'écrire, j'ai pris 10 minutes pour remercier Dieu, pour rire, on a le même profond. Je riais, parce que dans ce moment, moi, c'est incroyable. Oui, le Seigneur est capable de grandes choses. Mais il y a souvent que la souffrance est telle qui nous fait oublier notre Dieu. Dans l'épreuve, notre premier réflexe, c'est de regarder autour de nous, de chercher qui pourra nous aider. On épluche notre compte, notre carnet de téléphone. Qui je pourrais appeler? Qui pourrait m'aider? Pourtant, au lieu de prendre la voiture, au lieu de l'essence, il y a quelqu'un qui est juste à côté de nous, disponible 24 heures sur 24, prêt à nous aider, juste à nos côtés. En Philippiens 4, 7, il nous est dit ceci. La paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Joie et paix sont liées. Et joie et paix se trouvent dans la présence de notre Dieu, même à travers la souffrance et les difficultés. Alors, comme je l'ai dit, dans la présence de notre Dieu, dans la prière, il y a la joie. Mais il y a encore quelques promesses derrière la prière. Au verset 15, il nous est dit ceci, « La prière faite avec foi obtiendra la guérison des malades et le Seigneur le relèvera. » Ici, Jacques n'a pas l'esprit, un homme malade, alité, couché sous son lit, que Dieu pourrait relever. Le mot « malade » dans ce texte, traduction du mot « capno » en grec, signifie fatigué, lassé, abattu, découragé, épuisé. Oui, lorsque nous sommes dans cet état, le Seigneur, à travers la prière, peut nous relever. Oui, si tu te trouves dans un état fatigué, découragé, Dieu peut te guérir, Dieu peut te relever. Nous avons juste à tourner nos regards vers lui. Autre promesse, dans la présence de Dieu, nous trouvons le pardon de nos péchés. Jacques chapitre 5, verset 15 nous dit ceci, la prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade, le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Verset 16, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Là encore, le mot guéri signifie ici restaurer aussi, pardonner. Il s'agit non seulement d'un rétablissement physique, mais aussi moral, mental, spirituel. Il n'y a pas longtemps, je l'ai encore expérimenté. J'ai appelé quelqu'un qui passait par des moments difficiles. J'ai d'abord cherché à l'encourager par des phrases toutes déjà prêtes. Dieu prend soin de ses enfants. Ne t'inquiète pas, tu es fidèle. Et cette personne qui me répondait, je sais, avec une voix triste. Ensuite, j'ai prié pour cette personne. Et à la fin de la prière, cette personne a fondu en larmes. Non pas parce qu'elle était dans la peine, mais à travers la prière, Dieu avait déjà commencé à lui apporter un réconfort. Et ce n'était pas moi. Ce n'était pas mes mots qui l'avaient touché. C'était Dieu qui l'avait touché. C'était Dieu qui avait agi à travers la prière. Nous avons, chers frères et sœurs, une puissance entre les mains, la prière. Pourquoi nous avons tendance à la négliger? Alors il faut savoir que la prière, c'est la responsabilité de tous. D'abord le chrétien qui souffre. Il m'est déjà arrivé d'attirer quelqu'un qui me fasse le reproche suivant. Tel jour, j'étais à l'église. Personne n'a remarqué que je n'étais pas bien. Personne ne m'a proposé de prier pour moi. J'avoue que dans ce moment-là, je me sens un peu mal de passer à côté d'une telle situation. Cependant, quand j'ai discuté avec la personne pour savoir qu'est-ce qui était la cause de ce mal-être, comment elle était ce jour-là, et qu'elle me dit, ah, ce jour-là en question, ben, j'étais bien. Je ne voulais pas pouvoir que j'avais pas bien. Alors là, je vois la personne, j'ai dit, mais si tu ne voulais pas qu'on sache que tu ne vas pas bien, comment veux-tu que moi, je vois que tu ne vas pas bien? Alors, je veux bien, il y a le discernement. Oui, oui, mais bon. Le Seigneur ne me donne pas tous les dimanches une capacité à voir sur la tête de chacun d'entre vous si vous avez bien ou pas. Dans son passage, Jacques est clair. il met d'abord la responsabilité sur celui qui passe par les souffrances. L'un de vous passe par la souffrance, il prie d'abord. Combien sommes-nous à nous précipiter sur le téléphone pour appeler le pasteur dès qu'une difficulté se présente? Ce n'est pas, c'est pas le pasteur, ce n'est pas l'ancien, ce n'est pas un autre qui est puissant. C'est la prière qui est puissante. Face à l'épreuve, le chrétien est d'abord invité à se tourner de manière personnelle vers Dieu dans la prière. Jacques ajoute, l'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'église qui prient pour lui. Jacques ne dit pas, si l'un de vous est malade, qu'il attend que Dieu envoie un responsable de l'église qui voit qu'il est triste pour prier pour lui. Non. Si l'un de vous est malade, vous appelez un responsable de l'église qui prie pour vous. La responsabilité repose d'abord sur le péché qui passe par le moment ici. Oui, bien sûr, effectivement, les responsables de l'Église ont cette responsabilité. Ça fait partie de leur ministère, prendre soin du troupeau. Mais je vais encore vous décevoir. On veut faire porter aux pasteurs, aux anciens, beaucoup de responsabilités. Pourtant, cette responsabilité ne repose pas uniquement sur leurs épaules. Toujours dans notre passage, qu'est-ce qu'il nous dit? Confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Ce n'est pas que le pasteur, ce n'est pas que les anciens. Nous n'avons pas une puissance particulière dans nos prières. La même puissance, l'esprit qui habite en Jésus-Christ, l'esprit qui habite le pasteur et l'ancien, c'est le même esprit qui habite en nous. Paul confirme cette idée lorsqu'il dit en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14. Nous vous le recommandons, frères et sœurs. Il ne dit pas nous vous le recommandons, pasteurs et anciens. Frères et sœurs, nous tous, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Réconfortez ceux qui sont découragés. Soutenez les faibles. Soyez patients envers vous. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Et on dit bien qu'il ne s'agit pas uniquement de la maladie physique. Nous sommes appelés à encourager, réconforter, soutenir. Et non pas par juste des mots, mais par l'outil le plus puissant que nous avons entre nos mains, la prière. Alors je vais terminer avec, finalement, comment prier? Parce qu'il y a prier et prier. La prière doit être une prière tout d'abord de foi. Beaucoup d'entre vous, en étudiant le livre de Jacques, l'avez lu comme moi-même. En Jacques chapitre 1, versets 5 et 6, Jacques nous met l'avant. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, qu'elle donne à tous généreusement sans faire de reproche, il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Alors oui, dans ce cas-là, Jacques parlait de la demande de sagesse. Mais c'est le cas aussi pour toute demande par la prière. Lorsque le chrétien malade passe par l'épreuve, par la souffrance, et qu'il fait appel au responsable de l'Église, il le fait parce qu'il croit aux promesses de son Dieu. C'est Dieu qui me dit d'aller voir les responsables. Alors je vais voir les responsables. Dieu me dit que quand ils vont prier pour moi, je serai guéri. Alors par obéissance, parce que j'ai foi en mon Dieu, je fais la démarche. C'est aussi avec foi que les responsables de l'Église sont amenés à prier. Mais je le répète, pas que les pasteurs et les anciens, nous tous, nous devons prier avec foi. C'est facile à dire à quelqu'un, « Ah bon, j'ai prié pour toi, t'as pas été guéri. »« Ah, c'est ta faute, hein? T'as passé le foin. » Posons-nous d'abord la question. Est-ce que des fois, c'est pas aussi de notre faute que nous t'avons prié? Avons-nous été capables de prier avec foi? En lisant le passage, j'ai cherché à trouver la prière instante d'Élie pour qu'il ne pleuve pas. Je vais vous étonner, je n'ai pas trouvé. Il n'y a pas de détails de cette prière instante d'Élie. Mais dans 1 Roi, chapitre 17, où on découvre ce prophète, dès le verset 1, il nous est dit, voilà la présentation d'Élie. 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé, en Galaad, vint dire au roi Akab, aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers est vivant. Il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. Il a dû tout faire. Il est arrogant. Tant qu'il ne va pas le demander, il ne peut pas. Vendredi, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un match à jouer dans un gymnase où il y a un trou plafond. C'est embêtant parce que s'il pleut, pas de match. Si on a commencé, on doit s'arrêter. S'il pleut trop, on doit repousser. Alors on était assez inquiets dans notre équipe, on se disait, mais c'est dommage, il faut reporter à chaque fois. Je me suis posé la question, voilà. Est-ce que tu es capable, comme Élie, d'avancer devant ton équipe et leur dire, aussi vrai que l'Éternel de l'Éternel de l'Éternel vivant, il n'y aura ni osé ni plus ce soir, sauf si je le demande. Bon, j'ai pas osé. Avons-nous la foi? Jésus ne nous dit pas que si nous demandons une colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur. Mais en croyant que cela va se réaliser, un jour la chose s'accomplira. Et lui avait cette foi. Et pourtant, comme Jacques le rappelle, il était un homme tout à fait semblable à nous. Nous devons être capables de prier avec foi. Mais il faut retenir une chose. Le péché est un obstacle aussi à notre prière. En Ésaïe chapitre 59, versets 1 et 2, on nous dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas sourde au point de ne plus nous entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. C'est pour cette raison que Jacques, au verset 16, nous invite d'abord à confesser nos péchés. Puis ensuite, prier pour obtenir la guérison. Le temps de prière va être précédé d'un examen sérieux, authentique, d'un échange sincère. C'est pour cette raison que le chrétien qui souffre doit faire preuve de sagesse, de discernement, lorsqu'il a choisi la personne à qui il a demandé la prière. Car cette personne peut être une personne de confiance. Une personne à qui nous pouvons nous confesser. Mais aussi une personne qui, à son tour, n'hésitera pas à se confesser. Parce que si elle aussi est dans le péché, la prière sera sans effet. Alors cette étape n'est pas évidente. Ça nous demande de nous découvrir. Si c'est un péché qui nous touche personnellement, ça peut aller. Mais quand cela concerne quelqu'un d'autre, c'est plus délicat. Parce qu'en effet, confesser de manière sincère, c'est être prêt ensuite à livrer la personne pour régler le problème qui constitue un frein. Puisque ce péché, ce trouble, tant qu'il n'est pas résolu, sera toujours un frein pour la prière. Alors vous comprenez ce matin pourquoi lorsque vous demandez la prière à un pasteur, à un ancien, il vous demande tout d'abord, comment vas-tu? Comment est ton état spirituel? Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas vous voir guéri. c'est parce qu'il est conscient qu'il faut d'abord s'assurer qu'il n'y ait absolument rien qui fasse obstacle à la prière. D'ailleurs, que préférons-nous? Vivre sans aller dans la joie, dans la gaieté, dans la bonne santé, au risque de perdre notre éternité? Ou vivre l'épreuve, la difficulté, en étant en bonne santé spirituelle pour pouvoir répondre à l'appel de notre Dieu quand il sera le moment? Jacques nous invite d'abord à regarder notre état spirituel pour qu'ensuite la prière devienne efficace. Enfin, j'approche de la fin, la prière doit être soumise à la volonté de Dieu. Paul, lorsqu'il a pris conscience que son épreuve était pour lui une manière d'être protégé de l'orgueil, il n'a pas demandé la prière pour que l'épreuve s'en aille. Nous devons être capables d'être patients et être soumis à la volonté de Dieu. Parce que nous comprenons que si le Seigneur tarde à nous guérir, c'est tout simplement parce que nous avons compris que l'épreuve est là pour nous éprouver, nous tester. Tester notre patience, tester notre foi. Si le Seigneur tarde à nous répondre, c'est parce qu'il voit que cette souffrance nous protège, comme Paul a été protégé dans sa souffrance. Non, le Seigneur n'est pas trop loin. Non, le Seigneur n'est pas sourd. Il sait très bien ce qui est bon pour nous. Soyons soumis à la volonté de Dieu. Et enfin, la prière est insistante. À l'image d'Élie, Jacques nous invite à prier avec insistance. Jésus l'a fait de même dans sa parabole, en Luc 18, chapitre 1, verset 8, où il y avait ce juge qui ne priait personne, même pas Dieu. Il n'avait égard pour personne. Mais quand il y a eu cette femme, qui jour après jour, ne cessait pas de venir, pour qu'il défende son droit. Longtemps il a résisté, longtemps il a refusé. À un moment il en a eu marre. Et il a fait ce qu'il voulait. Voilà ce qu'il a répondu. Il veut nous voir insister. Lorsque j'insiste, ça prouve que j'ai foi en Dieu. Si je laisse tomber, c'est parce que je ne crois pas. Si je continue, jour après jour, c'est que je fais confiance à mon Dieu. Matthieu 7, chapitre 7, nous invite à demander, chercher, frapper à la porte. N'hésitons pas à insister. Alors j'en arrive à ma conclusion, je vais vous laisser là. Lorsque Dieu a attiré mon attention sur ce passage, après mes premières lectures, je m'étais imaginé terminer avec un appel, pour un temps de prière, pour les malades, du coup, j'ai les affaiblis. Et en étudiant plus profondément le texte. Et je pense que vous l'avez compris comme moi-même. Je me suis rendu compte que ce n'est pas ce que le Seigneur recherche. J'espère vraiment que vous avez compris que ce n'est pas un pouvoir qui a été donné à quelques personnes. C'est une puissance que nous avons chacun d'entre nous, entre nous-mêmes. Pas besoin d'attendre une grande occasion, pas besoin d'attendre que nous soyons visités par un grand orateur. La guérison, la délivrance, un souffle nouveau peut se produire aujourd'hui même pour chacun d'entre nous, avec n'importe qui d'entre nous. Nous avons le désir de voir notre Église grandir. Pour cela, nous devons devenir une Église de prière, d'intercession. Nous soucions les uns des autres. Alors oui, dimanche dernier, notre frère Fernand Lebrun, il a prié devant. L'Esprit est à lui. Il nous a invité à venir vers lui afin d'être délivré, libéré par la prière. Et à la fin du culte, il s'est formé des petits jours. Des personnes sont allées le voir. Il priait à droite, il priait à gauche. Je pense que cela doit devenir une habitude. Mais non pas d'attendre que ce soit le prédicateur. Mais si vous n'allez pas bien, si vous passez par des moments de souffrance, n'attendez pas. Oui, d'abord, priez à la maison. Mais ensuite, n'hésitez pas. Nous sommes une famille. Nous nous soucions les uns des autres. demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux, de guider vos pas de la personne qui pourra prier avec vous, avec foi, avec sincérité, qui pourra vous aider à confesser vos péchés, vous bénir. Et là, vous serez guéri. Et là, vous verrez vos péchés pardonnés. Aujourd'hui, cette semaine, nous avons l'occasion de reprendre, si nous l'avons laissé, reprendre en main cette puissante arme que Dieu nous a donnée, la prière. N'hésitons pas à utiliser ce pouvoir que Dieu nous a donné, la prière. Je vous invite à prier à deux. Dieu de grâce, je te remercie pour ta parole qui nous ouvre les yeux. Qui peut-être nous rappelle les choses que nous avions oubliées. Tu ne nous as pas promis une vie heureuse, une vie sans souffrance. Tu as été clair. Tu es un Dieu vrai, véritable. Tu ne connais pas le mensonge. Ce que tu dis est juste. Si toi, tu as été persécuté, insulté, qui nous a prévenus, nous aussi nous passerons par des moments difficiles. Mais à travers ces souffrances, Dieu d'amour, nous te remercions parce que nous savons qu'en toi, nous trouvons la joie. En toi, nous trouvons la paix, même si la souffrance et difficulté se succèdent dans notre vie. Alors Père, je veux te remercier parce que tu as tout fait parfaitement. Tu es là chaque jour à nos côtés. Et à tout moment, nous pouvons tourner nos regards vers toi. Et il nous a donné une famille. Une famille sur laquelle nous pouvons compter. Devant nous, à droite et à gauche, nous avons des frères et des sœurs qui peuvent nous réconforter, qui peuvent nous soutenir en priant avec nous. Alors, Père, je te prie de nous pardonner si nous avons mis de côté cette arme. Si nous l'avons posée sur la table. En oubliant que nous avons un ennemi qui lui est fort. Nous ne voulons plus négliger cette puissante arme que tu nous as donnée. Donne-nous d'être capables de lever la voix vers toi. Donne-nous d'être capables de pouvoir dire à la montagne de se déplacer et d'être convaincu qu'elle va se déplacer. Parce que lorsque nous ouvrons la bouche, lorsque nous parlons en ton nom, c'est toi qui agis à travers nous. Père, donne-nous cette capacité à utiliser cette arme. Apprends-nous à l'utiliser avec nous. Merci de ta grâce. Amen. Alors, bon dimanche à tous et n'hésitez pas, n'hésitons pas à utiliser cette arme. Et dès aujourd'hui, ou dans la semaine, si vous passez par des moments difficiles, tournez vos regards vers Dieu et demandez-lui de diriger vos pas vers la personne qui pourra prier avec vous et vous aider à tenir dans la souffrance et vous aider à tenir jusqu'à ce que vous soyez délivré de votre souffrance. Soyez bénis.